chers amis, bonjour.
Porte de Savoie, 3700 habitants. Si vous ne connaissez pas cette commune, c'est peut-être normal, puisque c'est ce qu'on appelle une commune nouvelle qui a été créée il y a peu, finalement, tout récemment, en réunissant Les Marches et Francin, il y a quelques mois seulement. La commune est placée dans la Combe de Savoie, au sud de Chambéry. Elle est entourée de montagnes, la chaîne des Belledonnes, puisqu'on dit les Belledonnes ici quand on est en Savoie, le Granier dans la Chartreuse, la Savoyarde sur les Bauges. Et c'est la première commune viticole du département de la Savoie, que ce soit au niveau de la superficie ou de la production, avec plus de 300 hectares. Appellation Roussette de Savoie, Vin de Savoie, Cru Abîme, Cru Apremont, Chignin Bergeron et nouvelle appellation ou récente appellation, le Crémant de Savoie. 23 viticulteurs, 5 négociants représentent l'une des principales économies de cette commune de Porte de Savoie. En plus du tourisme nature, bien sûr, grâce en particulier à la présence de nombreux lacs, l'œnotourisme se développe aussi, donc lié aux vignobles, avec de nombreuses animations, des sentiers de découverte au cœur des vignes. La salle Montgrabel, où nous sommes aujourd'hui, se situe tout près d'une zone d'activité, la zone artisanale du plan Cumin. Mais il y a aussi, sur la commune de Porte de Savoie, sur la partie Francin, une zone d'activité très importante aussi, aux portes de Chambéry, près d'un péage autoroutier, c'est Alpespace. Demain, je vous parlerai du patrimoine des deux villages, Les Marches et Francin, à Porte de Savoie, où nous n'allons pas tarder à jouer aujourd'hui, avec Samuel Bouvier et Jacques-Yver Besson. Samuel, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Comment allez-vous Samuel ?
Très bien.
Toujours très bien, toujours prêt à jouer ?
Oui.
Vous habitez le département de la Savoie, la Ravoire, c'est près d'ici ?
Exactement, dans la banlieue de Chambéry.
Oui, bon, on n'est pas loin oui. Alors. Vous travaillez dans le service des bâtiments de France.
Voilà,
Samuel.
Ce qu'on appelle plutôt l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Savoie et Haute-Savoie, puisque voilà.
Oui, donc, c'est un nom facile à retenir, mais
Les gens nous connaissent mieux ABF, architecte des bâtiments de France.
Voilà. Vous écrivez par ailleurs, Samuel, pour les jeunes.
Oui, à l'Aune.
Ah, on était à l'Aune près du Mans, effet, pour une spéciale jeune-jeune avec les petits avec les enfants.
Oui, Lorenz.
Mais vous écrivez, c'est-à-dire pour les enfants.
Oui, pour les enfants, beaucoup.
Vous envoyez des questions.
Oui.
Ah, c'est ça, je comprends maintenant. Oui, vous envoyez des questions.
Des questions pour les primaires.
D'accord, je vois très bien. Vous notez toutes les questions chez vous, d'ailleurs, quand vous écoutez
l'émission. Oui, au mot près. Et après, je les pose à mes collègues de travail.
Ah.
Voilà. À mes parents, au club, à plein de gens. Et ça permet d'entretenir sa mémoire.
Mais génial.
Voilà. Et je remercie. J'ai vu qu'il y avait des collègues de mon travail qui étaient présents dans la salle.
Eh bien, ils sont là pour vous encourager aujourd'hui aux côtés de Jacques-Yver Besson. Bonjour Jacques.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez Ténézol, c'est près d'Albertville.
Oui.
C'est un village, Ténézol.
Un village, oui.
Et un village dont vous vous intéressez à l'histoire.
L'histoire, oui. Notre maire veut que dans chaque bulletin municipal figure une, deux ou plus pages d'histoire de la commune. Donc, je me suis dévoué à ce travail. Je fais des recherches.
Qu'avez-vous trouvé d'intéressant sur l'histoire de Ténézol près d'Albertville ?
L'histoire, par exemple, un personnage haut en couleur qui fut barbier perruquier du roi Louis XVIII
en
1820-1830 et qui était originaire de Ténézol et qui ramena des louis d'or, dit-on, pour sa famille, ses neveux et nièces, pour qu'ils n'émigrent plus vers Paris ou vers les villes de France, puisqu'à l'époque, c'était le royaume de Piémont-Sardaigne.
Oui.
Et donc, il leur a dit, je vous lègue, mais il était célibataire, je vous lègue ces louis d'or pour que vous puissiez désormais rester en Savoie, dans le royaume de Piémont, et ne plus partir chercher
à l'étranger.
Oui, voilà.
Mais alors, ça rapporte le métier de perruquier.
Ah, ça rapportait, j'ai l'impression. Oui.
Mais ça peut rapporter encore aujourd'hui.
Il avait fait une petite fortune, j'ai l'impression.
Petite fortune, oui, c'est bien.
Et puis on a aussi une chapelle du XIVe siècle, un retable du XVIIIe, donc une petite commune, mais quand même des choses intéressantes.
Mais j'entends ça, Jacques-Yver Besson. Vous jouez aujourd'hui depuis Porte de Savoie avec Samuel Bouvier. Voici les questions que vous avez tirées au sort. J'espère que vous avez eu la main heureuse. Première question bleue d'aujourd'hui, une question de Jérôme Noël qui habite Ancenis-Saint-Géréon en Loire-Atlantique. Comment s'écrit l'adjectif aigu au féminin ? Appeler l'adjectif aigu quand il est au féminin.
A-I-G-U-E, tréma.
Et le tréma sur ?
Sur le E.
Sur le E, exactement. Bravo, aigu au féminin avec le tréma sur le E final. Samuel et Jacques, autre question bleue, pendant que vous éclaircissez la voix. Autre question bleue de Yannick Leroy à Rézeux, dans les Yvelines. Quel journal français met toujours en exergue, en haut de sa dernière page, la phrase suivante. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas.
Le Figaro.
Ah non, ce n'est pas la devise du Figaro. Qui est le, sans liberté de blâmer.
Le canard enchaîné.
N'est pas d'éloge flatteur pour le Figaro.
Le canard enchaîné.
Le canard enchaîné a pour devise la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas.
J'allais rebondir.
Question bleue également de Marilène Rufflet qui habite Le Mans, près d'Alonne. Ou réciproquement, c'est peut-être Alonne qui est près du Mans. Quelle est la matière qui constitue nos ongles et les cornes des rhinocéros? Oui, c'est Marilène qui vous pose la question comme ça, et c'est vrai, c'est aussi bien dans nos ongles que dans les cornes des rhinocéros.
La kératine.
C'est la kératine, constituant principal des cornes, des ongles, des becs, etc. On monte peut-être d'un cran en difficulté avec maintenant les questions blanches. Voici cette question de Gérard Blot de Paris dans le 17e. Quel est le nom de cet architecte né en 1867, mort en 1942, qui est un représentant emblématique de l'art nouveau en France? On lui doit notamment ce qu'on appelle les édicules des stations de métro, donc les décors, l'entourage des accès de nombreuses stations de métro à Paris.
Je crois qu'il est né à Lyon et c'est Guimard.
Hector Guimard, cet architecte art nouveau, à qui l'on doit aussi des hôtels particuliers, des villas, des immeubles pour la bourgeoisie parisienne, comme le Castel Béranger, qui se trouve rue La Fontaine, dans le 16e arrondissement, Hector Guimard. Autre question blanche de Michel Issaverdins à Angers. De 1849 à 1876, Richard Wagner a composé sa fameuse tétralogie, l'anneau du Nibelung. Comme le mot tétralogie l'indique, cette œuvre comporte
quatre
parties. C'était pour voir si vous suiviez. Pouvez-vous citer trois d'entre elles? C'est ce que vous demande Michel. Trois œuvres faisant partie de cette tétralogie.
L'Ordurin.
Le Crépuscule des Dieux.
Et une troisième.
Tristan.
Parsifal, non.
Nibelung,
non. Alors, l'anneau du Nibelung, c'est le nom de la tétralogie, et qui inclut, vous l'avez dit, l'or du Rhin, le crépuscule des dieux.
Lorelai, non.
Non.
Les Valkyries.
Pas les.
Valkyries.
La Valkyrie.
Le nom complet, c'est la Valkyrie, c'est ça. Et Siegfried, le quatrième opéra de cette tétralogie de Wagner, c'était Siegfried. Donc, je rappelle, l'or du Rhin, le crépuscule des dieux, la Valkyrie, les trois que vous avez cités, et le quatrième, c'est Siegfried. Question rouge envoyée par voie postale sur une carte postale. D'ailleurs, c'est très pratique, les cartes postales, parce qu'il n'y a pas d'enveloppe et parce que ça nous évite d'avoir à ouvrir toutes ces enveloppes, car vous êtes très, très nombreux à nous envoyer des questions, une centaine par jour, rendez-vous compte. C'est Martine Prunk de Reims qui vous demande le nom de ce type de toiture en dents de scie couvrant le plus souvent un atelier. C'est un mot d'origine anglaise, d'ailleurs. Et c'est un genre de toiture en dents de scie, caractéristique du 19e, du début du 20e.
S-H-E-D. Ça fait shed.
Et le mot qu'il fallait trouver, c'est le mot shed. S-H-E-D. Ce type de bâtiment est appelé shed. Un terme anglais qui veut dire hangar, d'ailleurs. Vous avez donc répondu juste à toutes les questions dans cette première partie du jeu. Samuel Bouvier et Jacques-Yves Hermesson, vous pouvez tenter directement le...
On continue.
Ou vous arrêtez, je donne les règles du jeu,
non,
vous pouvez vous arrêter.
Non, je présentais. Mais la foule m'a dit, on continue.
Mais la foule, d'accord, on aime la foule, on aime nos auditeurs, on les adore nos auditeurs. Voilà. Comment ne pourrait-on pas les aimer? Mais vous êtes les décisionnaires dans cette affaire. Vous êtes seuls, vous êtes les maîtres. Profitez de ce moment. Vous dites oui, vous dites non, on décide. Nous, on obtempère, c'est vous qui décidez.
Banco,
d'accord. Ça, c'est clair.
Le jeu des 1000 euros sur France Inter.
Une question qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, de Thonnoy, et c'est Stéphane Mage qui l'a écrite. Quel était le surnom donné localement, en Lorraine, au minerai de fer en raison de sa faible teneur? Je rappelle la question posée par Stéphane. Quel est le surnom, toujours, quel était, parce qu'on ne l'exploite plus, quel était le surnom donné localement au minerai de fer lorrain en raison justement de sa faible teneur en fer. À découvrir par exemple à l'écomusée de Neufchef en Moselle. On l'appelait d'un nom féminin lié à l'histoire de l'extraction du minerai en Lorraine. Un joli petit nom. Ouais.
Je crois que c'est la Minette.
La Minette de Lorraine. Samuel et Jacques, vous avez répondu au banco, 500 euros si vous vous arrêtez, mais vous avez donc l'autorisation, si on peut dire les choses ainsi, de tenter les 1000 euros du... Pas d'obligation, 500 euros c'est bien. Moi, je dis ça, je ne dis rien.
J'ai perdu à chaque fois, mais j'ai envie de continuer quand même.
Vous avez perdu, mais vous aimez ça. Ouais. Et vous tentez donc tous les deux...
Super Banco.
Le Super Banco. Bravo déjà pour votre sportivité. C'est la question à 1000 euros, postée sur franceinter.fr par... un auditeur prénommé Aubry et nommé Campnas qui habite Terrac dans le Lot-et-Garonne. Qui a écrit la pièce russe Les Trois Sœurs ? Question directe. Qui est l'auteur de la pièce russe Les Trois Sœurs ? L'histoire de membres d'une famille composée de trois sœurs et d'un frère dans la campagne profonde de Russie.
Il s'agit de Tchekhov.
Anton Tchekhov, le nom de l'auteur de cette pièce, Les Trois Sœurs. Oui ! Le Super Banco est gagné aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, par Samuel Bouvier et Jacques Hivert-Besson, 1000 euros, ainsi que le livre de Guillaume Gallienne, Ça peut pas faire de mal, tiré de son émission de France Inter, qui fête ses 10 ans en coédition France Inter Gallimard. Très bonne journée et pour le spécial jeune, à demain, si vous le voulez bien!